يلا سو
deux, c'est maintenant à fond dans tes oreilles.
Quand je vous dis qu'il faut refaire ces foutus jingles...
Je suis tout à fait d'accord.
J'avais pris un temps fou.
Je suis tout à fait d'accord.
Bon, la troisième partie de cette émission va être certainement la plus remplie, mais pas forcément la plus longue, puisque nous avons deux chroniques et un jeu.
Yeah. Yes.
Et si on commençait par le jeu? Ça change.
Allez.
On peut commencer par le jeu.
Moi, ça me va. Le jeu.
Allez.
J'aime l'aventure.
Comme ça, on n'a pas à se presser, on peut parler de nos chroniques calmement.
Exactement.
Il y a du temps, il y a du temps, il y a du temps.
Il y a du temps. On va faire un petit geekblick comme le mois dernier.
C'est quoi geekblick?
Ouais, rappelle le concept.
Le geekblick, c'est comme le schmilblick. Je vous fais deviner un mot, un concept, une musique, une histoire, un personnage, avec des indices, et vous me posez des questions par oui ou par non. Le premier qui trouve a le point.
Yes.
Ok.
Ok. Le premier est un concept impossible actuellement.
Le voyage dans le temps.
Non.
Attends, un concept impossible, c'est-à-dire
la vitesse de la lumière.
Je ne réponds que par oui ou par non.
La vitesse de la lumière.
Non.
C'est pas un concept impossible.
C'est un concept d'art.
Oui, c'est artistique.
Ok, donc c'est un concept d'art qui se tient.
Ouais.
Ok.
En 3D.
Bah écoute.
Qui est bon.
Pour certains, c'est considéré comme bon, oui.
D'accord. Certains, c'est une grande majorité ou pas?
Tous les gens sauf moi.
D'accord, donc une grande majorité.
Oui.
Impossible pour des raisons
parce que
techniques.
Tu n'es pas une majorité.
Non, voilà.
Impossible pour des raisons techniques.
Oui, et pas que.
Mais c'est de l'art, t'as dit?
Oui, c'est de l'art.
Ça s'est fait après les années 2000?
Non.
Bah, ça s'est jamais
donc
fait.
Donc avant les années 2000?
Oui.
Ok.
Et c'est plus possible maintenant.
D'accord. Ah, je sais.
Bah oui.
La saga originale de Star Wars.
Quoi ?
Non ?
Bah si, mais t'as lu sur mes feuilles ou quoi ?
Oui, j'ai lu sur tes feuilles.
C'est vrai ?
Oui, c'était ça, la version originale de Star Wars, concept impossible à l'heure actuelle.
Mais parce que impossible, en fait, quand il dit concept impossible, c'est une trilogie de bons films, quoi. Pour moi, ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus.
Et la version originale sans les cuts de George Lucas.
Ah, oh, fallait le deviner le truc. Oh.
Bah, il l'a deviné.
Non, ah, oui,
je sais pas comment il l'a fait, mais il l'a deviné.
Il y a une caméra derrière toi, je crois.
Allez là.
Allez. Le deuxième est un objet. Le geekblick est un objet.
Oh, j'ai déjà une connerie.
Un objet.
Est-ce qu'il vibre?
Est-ce que c'est le cube d'élémentation?
Est-ce que c'est le portal gun?
Alors, non, non et non.
Non, mais je le retourne que le portal gun, hein, parce que...
Donc est-ce ça ne vibre
existe?
Pas.
Est-ce qu'il existe?
Oui et non.
Putain, attends, oui et non.
Oui et non, ça aide pas.
C'est un objet d'œuvre ou c'est un objet vraiment... Enfin, on peut le tenir.
Oui et oui.
C'est un objet pratique?
On peut tenir ton objet.
Dans la vraie vie, oui.
C'est un objet pratique?
Est-ce que c'est de la réalité augmentée?
Non, et ça sert à des choses.
Est-ce que c'est un bouton de porte?
Non.
Est-ce que c'est non un...
Il faudrait que ce soit un minimum épique, parce qu'un bouton minimum, de porte...
Et un minimum geek aussi.
C'est un objet
un bouton de porte de jeu.
C'est un objet électronique?
Non.
Dur ces jeux. Je ne sais pas quelle question.
Mais
comment tu t'appelles? Ah non, ça ne marche pas du coup.
Quelle est ta couleur préférée?
Ce qu'on cherche, c'est l'objet en lui-même ou le nom de l'objet?
Le nom de l'objet, mais le nom et l'objet ont été associés par les gens.
Comme d'accord. Un marteau, par exemple.
D'accord.
Par exemple, un marteau.
Ouais, mais oui, mais par exemple, Mjolnir n'existe pas, mais c'est. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est un marteau et tout le monde a un marteau.
Voilà. Mais c'est pas le marteau qu'on cherche, c'est Mjolnir là.
Ouais, c'est ça. Ce serait le nom de la chose et la chose existe.
C'est un objet communautaire.
À quoi?
Un objet qui a été fait par plusieurs personnes.
Non.
Ah, okay.
Genre un anneau.
C'est
un anneau.
C'est un anneau.
Est-ce que c'est un gros objet?
C'est mon anneau.
Non.
Est-ce que je peux le tenir dans ma main?
Oui.
Et même elle est petite ma main, t'as vu?
Oui, oui.
Okay.
Même avec ta petite main, tu peux le tenir.
Ok.
Pas longtemps peut-être, mais tu peux le tenir.
Sa main fait 4 poussées de bite.
Est-ce que c'est le Graal?
Non.
Est-ce que ça a à voir avec le Graal?
Oui.
Et c'est à Libur.
Oui.
J'aurais trouvé le Graal sinon.
Joli. vous êtes auto-aidé, c'est bien ça.
Bah, moi, je ne me suis pas aidé. Par contre, je l'ai aidé, lui. Moi, ça ne m'a pas mis sur la voie, en plus.
Le troisième...
Attends, pourquoi je ne pourrais pas tenir longtemps l'escalibur dans ma main?
Parce que tu n'es pas le roi, Arthur.
Bah, elle n'aurait pas brillé, c'est tout.
Non, tu ne pourrais même pas la sortir du rocher.
Oui, mais elle est déjà sortie.
Une fois qu'elle est sortie, normalement, il peut la tenir.
Oui, je peux la tenir.
Oui, mais elle, à moins qu'elle n'aurait pas eu ses pouvoirs. Extraordinaire, mais...
Le troisième Ghiblic de l'émission est... Un homme.
Cloud.
Est-ce que je peux le tenir dans ma main?
Tu peux, mais c'est vachement gay. Ouais.
Est-ce qu'il est mort?
Non.
Comme on est une rubrique nécrologique.
Est-ce qu'il est fictif déjà?
Oui.
D'accord.
Est-ce que c'est Lucky Luke?
Non. Ah.
Pourquoi Lucky Luke?
Aucune idée.
Pourquoi lui? Ouais, là, Lucky Luke.
Est-ce que c'est Rentemplant?
Est-ce que c'est ça?
Est-ce que c'est la Lune? Attends.
Est-ce qu'il a visité une ville fantôme pour trouver sa femme?
Hein non.
Bah, Silent Hill,
c'est pas James. C'est pas James Sutherland.
Est-ce qu'il est vieux?
Oui.
Ah, c'est un vieil homme.
Le personnage est vieux.
Et il existe
maintenant,
pas.
Oui.
Et il existe pas.
Non, il n'existe pas.
Est-ce que c'est Alfred?
Maintenant, oui.
Est-ce que c'est Alfred?
Non, ce n'est pas Alfred.
Pose des questions, non?
Bah, est-ce que c'est Alfred? C'est une question.
J'ai un truc, mais c'est chaud.
Est-ce qu'il est considéré comme un beau gosse?
Le personnage ou le...
Bah, ce qu'on cherche.
Si c'est celui auquel je pense, non.
Non.
Ah, vas-y, alors.
Non.
Rick Deckard.
Putain, ce mec... Quoi? Mais quoi? Mais
ce
quoi?
Mec me saoule.
Il a dit maintenant oui. Moi, j'en connais qu'un qui est maintenant vieux et qui a été jeune quand, au moment. C'est Rick Deckard.
C'est qui, Rick Deckard?
Bah,
c'est le héros
de
Blade Runner.
Il y a 50 000 personnes qui étaient jeunes avant et vieux.
Comment tu fais?
Mais oui. Mais j'en ai marre, j'abandonne.
Il est mentaliste en fait.
Ah, bon, il m'en reste un dernier, celui-là, je sais que tu l'auras pas.
Mais pourquoi? Attends, j'aimerais quand même revenir sur la logique. Il était jeune avant et vieux maintenant. Parce c'est le cas de tous les gens qui sont vivants aujourd'hui.
On parle de personnages.
Parce que dans l'œuvre, on le connaît jeune et on le connaît vieux. Parce que Blade Runner est Blade Runner de 2049.
Ouais. Ah. Étant 2049,
et genre Luke Skywalker, ça marche aussi. Hein.
Oui, mais Luke Skywalker, c'est un PD.
Il y a une connexion de
mais
cerveau.
Mais qu'il soit gay ou pas, ça change rien.
Il y a une vieille connexion de cerveau, ils ont parlé en même temps. Ils
non,
même
mais c'est surtout, il a déjà mis du Star Wars. Pourquoi il en remettrait?
Puis il y a Neo dans Matrix aussi. Il y a tellement.
Alors,
de
Neo dans Matrix, il est toujours pareil parce que c'est Keanu Reeves.
Bah, c'est pas parce que c'est un vampire. C'est
il vieillit pas, Keanu Reeves.
Ok, Indiana Jones.
Ça marche avec Indiana Jones.
Mais c'est
Indiana
le même acteur. Ça marche avec Han Solo aussi.
Ça marche avec toutes les licences ressuscitées.
Il faut être honnête. Moi, ce qui me parle plus que Indiana Jones, que Star Wars, que machin, c'est Blade Runner. Si ça avait été Indiana Jones, je serais tombé à côté.
Ouais, non, mais très
quoi
bien.
Que dans Indiana Jones, il est considéré comme un bel homme.
Oui, complètement. D'ailleurs, des scènes.
Rick Deckard, non?
À l'école.
Non, Rick Deckard, il est pas. Enfin, il y a rien qui le
souligne.
C'est
qui Rick Deckard dans
Rick Deckard?
C'est quel acteur qui le
souligne? C'est Harrison Ford.
Bah, il est beau gosse.
Mais oui, pas son personnage.
Mais pas son personnage.
Son personnage est lâche en plus. Et à la différence d'Indiana Jones.
En fait, si tu veux, en plus, dans Blade Runner, ils ont pris le parti de faire un personnage antipathique, lâche. Bah, qui ne répond pas aux critères de beauté canon, etc. Ça fait plein de trucs. Or que Luke Skywalker, bah, Mark Hamill, quand il était jeune, il était plutôt dans les critères de beauté canon.
Bon, le dernier Ghiblic, et je sais que tu l'auras pas celui-là, parce que putain, est un lieu.
Challenge accepted.
La comté.
Non.
Un lieu réel ou pas?
Réel, oui.
Réel.
La place Saint-Marc.
Non.
À l'étranger.
C'est à l'étranger?
Ouais. Non.
C'est Bellecour.
Donc c'est en France.
Oui, c'est en France.
C'était en France.
La place de la Concorde.
Non.
Il y a un événement jeu vidéo là-bas.
C'est une ville?
Non.
C'est une place?
Non.
Ah, mais c'est un rapport avec le jeu vidéo?
Non.
Ah, bah
c'est un pont?
Non.
Une rivière?
Non.
Est-ce que c'est un grand lieu ou c'est pas une ville. Un petit truc?
C'est moyen.
C'est un bâtiment.
Okay, okay.
C'est un bâtiment. Ouais.
C'est plus grand à l'image que
d'accord.
qu'en vrai.
La Tour Eiffel?
Non.
Est-ce que c'est un lieu de tournage?
Oui.
Fort Boyard.
Mais qui existe?
Non, ah tu bah fous de ma gueule là.
Non mais. Mais l'a encore trouvé.
Putain merde. Eh les gars, je vais à Oléron toutes les années. Ouais. Moi, Fort Boyard, c'est devenu. Je culte, enfin, je connais quoi.
Mais il a été fait par lui, ce test. C'est Slumdog Millionnaire, le gars. Toute sa vie, c'était les questions d'ici quoi.
Ça, c'est quand t'es venu chez lui la dernière fois en fait.
Le Portal Gun. On en reparle du Portal Gun?
Bon.
Il a un très bon instinct.
Officiellement, mais... Kevin roule sur ce jeu.
Dis-moi que t'en as une dernière.
Non, j'en ai plus, là.
T'inquiète, ce week-end, je le tabasse sur Tekken pour vous.
Le portable.
C'était ça.
C'était ça. Non, mais le portail gueule. Nous aussi, ça, j'ai eu une fulgurance.
Cet homme roule sur le jeu.
Il est trop fort. Ouais, il est trop fort.
C'était dur comme jeu, en vrai. Hein.
Bah oui, et il trouve. Alors, c'est pas si dur.
Tu sais, le jeu où tu mettais un post-it sur ta tête avec un nom et tout,
principe.
Et ben, j'y arrive jamais.
Ouais, c'est pas
moi, je suis très fort à ça. Ah, bah, c'est exactement le même principe et je suis très fort à ça.
Il roule sur le jeu, mais est-ce qu'il va rouler sur la chronique?
Alors, c'est la chronique qui va nous rouler dessus, hein, à mon avis.
Et c'est une chronique ciné, alors, jingle.
Le film était bien. Chronique ciné.
Bien, alors on va attaquer aujourd'hui, on va parler d'une saga de films plutôt discrète et peut-être êtes-vous passé à côté. Une saga de films qui a vu le jour fin des années 2000 et qui a été rachetée par une toute petite boîte après avoir connu un petit succès. Aujourd'hui, on va parler du MCU. Voilà, comme aujourd'hui le MCU c'est 48 films et 28 ou 29 séries sur lesquelles je ne m'arrêterai pas, je vais parler que de la phase 1 et de la phase 2, c'est-à-dire avant de l'achat des studios Marvel par Disney. Pour ceux et celles qui dorment au fond de la classe, MCU ou Marvel Cinematic Universe, c'est l'adaptation des comics de la même maison d'édition, la maison d'édition Marvel, la maison des idées. Afin de gagner du temps, je vais citer que le casting qui revient sur plusieurs films. Hein, voilà. Donc le premier film qui ouvre cet univers, c'est en 2008 et c'est Iron Man. Alors, Iron Man, réalisé par Jon Favreau, qui est également devant la caméra dans le rôle de Happy Hogan, garde du corps du protagoniste Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr. On peut voir dans les rôles secondaires Gwyneth Paltrow et Terrence Howard et Samuel L. Jackson. Alors, côté scénario, rien de bien élaboré, mais ça reste vraiment efficace. Notre héros est bien loin d'en être un, mais suite à un événement plus ou moins traumatisant, il décide ou est forcé de devenir responsable. Et il devient le héros dans toute sa splendeur. Encore une fois, simple mais efficace. Tout comme la réalisation du film, ce qui doit être filmé est filmé, mais aucun parti pris. Donc dans les films Marvel, ça va être ça les règles. Simple mais efficace. Ce modèle de scénario et de réalisation va être souvent repris au cours des films. Ensuite, on a le deuxième film, le film L'incroyable Hulk. Alors, il est réalisé par Louis Leterrier avec Edward Norton, Liv Tyler et Tim Ross. Il n'y en a qu'un seul qui reviendra, mais ça, on verra ça dans la phase 4. Ce film n'est ni une suite, ni un nouveau départ. Certains producteurs de ce film le qualifient de requel, quoi que cela veut dire. Donc, au niveau scénario, on échappe à la règle évoquée juste avant, mais on a une espèce de truc qui essaye de faire à la fois suite et premier volet. Si on ajoute à ça les délires mégalomanes d'Edward Norton qui réécrit le scénario au fur et à mesure, parfois même juste avant de tourner les scènes, on obtient un film plutôt mal ficelé qui reste, à mon avis, le plus mauvais de l'univers. Suite à ce petit échec de Hulk, il faut redonner de l'intérêt au public. Donc pour cela, on revient sur un héros que le public a aimé, et sur un héros qui a bien marché. Et donc, on va arriver sur la première suite de notre univers, Iron Man 2.
toujours la même équipe, mis à part que Terrence Howard est recasté par Dunshield. La réalisation reste identique. Côté scénario, rien de bien élaboré, mais ça reste vraiment efficace. Notre héros, bien loin d'en être un, mais suite à un certain événement plus ou moins traumatisant, il décide d'être forcé à être responsable. Attends, quoi ? Oh bordel, ils ont refait plus ou moins le premier film, ce qui nullifie totalement le premier, puisque notre héros refait exactement le même chemin initiatique.
Ça me rappelle Transformers.
C'est totalement ça. Le seul véritable intérêt de cet épisode, c'est l'intégration du personnage Black Widow, qu'on reverra donc dans les suites, et notamment dans les Captain America et Avengers, qui est joué par Scarlett Johansson. Le film suivant, c'est Thor. Alors, ça, on sent les pics, j'adore ce thème. Donc, réalisé par Kenneth Branagh, qui est le professeur Lockhart dans Harry Potter 2. C'est juste pour le dire, j'adore cette anecdote. Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston et Anthony Hopkins, et encore beaucoup d'autres, mais ce serait trop long à détailler. Film qui présente et intègre un nouveau héros à cet univers. Donc on garde la règle des premiers films d'un personnage. L'intérêt de ce film, c'est qu'il marche à l'envers. Thor possède déjà tous les pouvoirs et toutes les capacités d'être un héros. Donc le but est de lui faire comprendre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et pour ça, on lui retire ses pouvoirs. En résumé, le film est assez réussi. Et même s'il reprend cette recette déjà vue, ben il a su se l'approprier. Et nous offre donc quelque chose de nouveau. Passons maintenant au dernier film solo de cette première phase, Captain America First Avengers. Donc, réalisé par Joe Johnson avec Chris Evans et Sebastian Stan, je ne cite encore une fois que ceux qui reviennent en acteurs, côté scénario et réalisation, rien de bien changeant, on reprend encore et toujours la même formule, et on le fait avec un nouveau personnage. Aucune originalité, mais les films solo, il ne faut pas aller chercher l'originalité. Cependant, la formule marche toujours. Et comme chaque personnage présenté au cours de la première phase est différent, on se laisse très facilement embarquer et ça marche bien. Passons maintenant au mastodonte de cette phase, qui est également un mastodonte du cinéma, Avengers. À la réalisation, nous avons Joss Whedon qui a travaillé sur Buffy contre le vampire, Angel ou encore Firefly. On reprend le casting des films précédents, mis à part Hulk qui a été recasté par Mark Ruffalo. Côté scénario, un grand méchant débarque et un seul héros ne sera pas suffisant pour arrêter la menace. Donc on réunit nos héros qui vont devoir apprendre à travailler en équipe et à surmonter leurs différences pour en faire une super team. Ce film marche sur tous les plans. De plus, il réussit l'exploit de créer un univers lié où tous les personnages se côtoient et interagissent au cinéma. C'est l'un des premiers qui le fait, si ce n'est le premier. Globalement, on a une première phase réussie. Les films sont agréables à regarder, mis à part Hulk, et finissent sur une apothéose. Après ça, il faut lancer la phase 2. Et pour ça, on retourne sur le héros qui a eu le plus de succès, Iron Man 3. On change la réalisation de John Favreau, John Favreau laisse place à Shane Black, qui est également scénariste sur cet opus. On garde le même casting. Alors, pour cette suite, on explore un syndrome post-traumatique de la part de Tony Stark suite au film Avengers. Et enfin, on a une suite avec un vrai propos. De l'écriture de Shane Black nous offre une des plus drôles des impostures du cinéma. Le seul problème de ce film est que Tony Stark fait très peu de Iron Man et est plus proche en termes de compétences d'un Captain America. Et je dis bien compétences et pas pouvoir. En effet, on va avoir un Iron Man qui arrive à faire des actions de terrain sans son armure, ce qui est totalement contraire avec le personnage. Mais à part ça, le film est vraiment jouissif et nous offre la première bonne suite de l'univers. Passons maintenant à Thor, The Darkness World. Et là, aïe, 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 ça fait mal. Le casting reste le même et je ne cite pas le réalisateur car un yes man comme un autre. Alors j'aime beaucoup ce film, mais il faut être objectif. C'est un échec. Déjà, il manque 15 à 30 minutes pour que tous les personnages puissent s'épanouir et nous offrir quelque chose de nouveau. De plus, il semble totalement déconnecté de l'univers. Mis à part la découverte scénaristique des pierres de l'infinité, ce film n'apporte rien au MCU. Et c'est bien dommage. Suite à ce nouvel échec, on doit faire en sorte que le prochain film marche. C'est là qu'entre en scène Captain America et le Soldat de l'Hiver, réalisé par les frères Russo. Ce film se démarque car il reprend plus du film d'espionnage à la James Bond qu'au film de super-héros. Et il faut dire que c'est assez rafraîchissant dans un univers qui comporte déjà 9 films. Ce qui nous offre un des meilleurs, ce n'est le meilleur film solo du MCU. Pour la suite, on pourrait se dire, bon, on a un film de tous les héros, mis à part Hulk. Donc on part sur le prochain Avengers. Eh ben non. On nous présente un nouveau groupe de héros qui ne seront pas dans le prochain film Avengers, les Gardiens de la Galaxie. Et je ne comprends pas ce film. Réalisé par James Gunn, avec Chris Pratt. Tu interviendras après, il y a de la place, rassure-toi. Donc réalisé par James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana.
On a le droit d'intervenir après, ok.
Dave Bautista, Karen Killian, et avec les voix de Bradley Cooper et Vin Diesel, nous suivons une bande de losers faire équipe, surmonter leurs différences pour former un groupe afin de souder et de surmonter une menace. Comme pour Avenger, en fait. Mais là où nous connaissons les personnages dans Avengers, ce qui nous permet de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à travailler en équipe et pourquoi c'est vraiment important qu'ils évoluent, dans les Gardiens de la Galaxie, on ne connaît aucun personnage. Et par conséquent, on ne s'attache à aucun d'entre eux. La seule chose qu'on retient des personnages, c'est que ce sont que ce sont individuellement des losers et qu'ils ont réussi à faire équipe. Super. Je ne comprends pas le succès de ce film. Bon. Suite à ça, on va attaquer le nouvel opus des Avengers, Avengers Age of Ultron. On reprend les équipes du premier et on réussit en moins bien. On nous fait également entrer dans la grande famille du MCU Elisabeth Olsen et Paul Bettany, que nous avons pu entendre jusque-là dans la voix de Jarvis et Andy Serkis, notre Gollum préféré. Ce second opus est loin d'être mauvais, mais n'a clairement pas l'envergure du premier volet. Ultron, qui est normalement un méchant extrêmement important des comics, est réduit en fin de compte à une péripétie dans le MCU. En effet, comparé à ce que nous avait teasé le premier ou même à côté du méchant des Gardiens de la Galaxie, Ultron fait vraiment too much. Cependant, la grosse qualité de ce film est le développement de personnages. On nous fait sentir que l'équipe est plus fragile qu'on ne le pense, et nous fait également découvrir des personnages plus secondaires qui deviennent encore plus attachants. Nous avons donc un film en demi-teinte, bien loin du succès de son grand frère, mais ça reste appréciable. Et on pourrait se dire que c'est la fin, mais non, il reste un film pour cette seconde phase. Nous terminons sur Ant-Man. Alors, réalisé par Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas, nous avons un nouveau héros solo. Donc on reprend la formule qu'on n'avait pas revue depuis la phase 1, mais qui reste tout aussi efficace. Cependant, le film a un très gros problème. Il ne respecte pas les règles qu'il met lui-même en place, ce qui peut repousser une grande partie de son public, voire la totalité, mais ça c'est encore autre chose. Autre problème de ce film, il clôture la phase 2. En quoi est-ce un problème, vous me demanderiez-vous? Eh bien, tout simplement, car il renforce le syndrome Ultron égale péripétie. Car on ne parle jamais dans ce film des événements du second Avengers. Là où on pouvait sentir que le premier avait achevé une ère et avait des conséquences positives ou non sur le MCU. Nous finissons donc ces deux phases du MCU avec une première phase plutôt bonne et une seconde phase où même si elle reste appréciable, a plus de faiblesses et où on sent que la formule MCU commence à s'épuiser. Après cette phase, je me demandais ce qu'allait nous réserver la phase 3 et je l'appréhendais avec énormément de crainte. Mais nous verrons cela dans le prochain épisode. Je vais maintenant finir cette critique par une simple question. Et vous les gars, qu'est-ce que vous avez pensé des deux phases du MCU?
Tu vas passer, la merde.
Tu vas passer la casserole. Hein.
Allez, vas-y.
Qui commence?
À toi l'honneur.
Alors. Les Gardiens de la Galaxie, d'accord. C'est un chef-d'œuvre. Je ne veux rien entendre.
En quoi c'est un chef-d'œuvre?
Je vais t'expliquer pourquoi c'est un
chef-d'œuvre. Musique.
La musique est géniale.
Déjà, toute la soundtrack est magnifique, surtout qu'elle est en deux volumes sous forme de cassette.
Voilà, oui, non, mais super.
Trois volumes même.
Trois maintenant.
Oui, trois maintenant. Tu me dis qu'on ne raconte, on connaît pas les personnages, mais Peter Quill. Il est, dès le début, on sait qui c'est. C'est un gamin terrien qui perd sa mère et qui soit enlevé par des extraterrestres.
Drax,
c'est un mec...
C'est un tolard, tu sais rien.
C'est un tolard, mais il raconte son histoire au fur et à mesure. On se rend compte qu'en fait, ses enfants sa femme ont été tués.
Non, il veut se venger. On ne sait pas pourquoi dans le premier. C'est dans le deuxième où on
développe. Il ne le dit pas dans le premier.
C'est dans le deuxième.
Il me semble que si, dans le premier,
il en parle ou il le dit vaguement.
Non, il le dit, parce qu'il tape avec ses couteaux et il attend...
James Gunn, il n'essaye pas avec les films et le joyeux fait d'ailleurs de créer un univers à part dans le MCU aussi?
Non. Parce que les Gardiens de la Galaxie dans la phase 3 sont intégrés.
Ils sont intégrés, d'accord, mais les films peuvent se regarder séparément comme une seule saga.
Oui. Mais tu ne connais pas tes personnages.
Tu les découvres au fur et à mesure des films.
Moi, j'ai pas été
bloqué dans le premier film.
On est bien d'accord. Pour moi, on en reviendra, c'est dans le deuxième où il commence à écrire ses personnages.
Le deuxième, il est mauvais.
Non, au contraire.
Attends, alors, on va rester sur le 1. Je veux dire pourquoi il est bien.
Oui,
déjà parce que l'ambiance et l'humour. Il est extrêmement présent, ça décale, même si Avengers est drôle. Les personnages ont toujours des petites répliques.
Très bon
rythme. Dans la galaxie, il y a énormément de rythme, et même dans le jeu vidéo, mais bon, ça c'est autre chose. Les dialogues sont très intelligents, en fait, au final. Parce que c'est là qu'on t'amène, en fait, sur l'histoire des gens. Par exemple, Gamora, qui est une tueuse sans pitié, machin, pour Thanos, à la base.
Elle veut juste. Tu sais pas pourquoi elle trahit Thanos. Elle le trahit, c'est tout.
Mais si, tu le sais, elle le dit.
Elle dit quoi?
Il est allé sur sa planète d'origine, il a tué tout le monde, il l'a récupéré orpheline.
Ouais. D'accord.
Il le dit, ça.
Il ne se rappelle pas des dialogues.
Non, ça, c'est pas dans le 1 qu'il le dit.
Bah, si.
Ça, ce qui est arrivé à Gamora, tu le sais, dans Infinity War. Mais tu sais pas. Elle te dit juste, au final, je ne suis pas d'accord avec mon père.
Mais tu l'as revu récemment, le 1?
Parce que moi, il me semble qu'il le dit. Hein.
Parce que moi, j'ai le souvenir aussi que dans le 1, les personnages, on connaît leur motivation, même si ce n'est pas développé au max. Mais on sait que Drax, sa famille s'est fait tuer par un gars et que justement c'est lui qui recherche.
Tellement c'est mal fait. Il s'avère que c'est le méchant des Gardiens de la Galaxie, puis au final c'est Thanos.
Bah au final c'est le bras droit du.
Oui, non. Ronan, au final c'est Thanos. C'est pas Ronan, c'est Thanos qui les a tués.
Oui, mais Ronan, c'est pour moi c'est un sous-fifre de.
Oui, dans le Gardien de la Galaxie 1.
Non, on le sait pas, mais après on s'en rend compte.
Enfin, non, dans le Gardien de la Galaxie 1, il dit qu'il veut se venger de Ronan.
Ouais.
Parce que,
et après il dit c'est pas Ronan, c'est Thanos qui a tué mon. Non. Et ça il le dit à la fin du 1. Il dit pas ça à la fin du 1.
Bah moi j'ai plus de souvenirs, mais en tout cas j'ai pas à souvenir Ronan, que c'était foiré quoi.
Il dit à Gamora, Ronan est mort, mais en fait le vrai c'était Thanos. Je veux tuer Thanos. Il dit un truc comme ça et je m'en souviens parce que ce film j'ai vu un milliard de fois. Il a été placé dans un moment de ma vie où du coup il a fait
Il t'a été impacté.
Voilà, il m'a extrêmement.
Ah, justement, impacté. T'es pas objectif.
Ouais, bah, objectivement, c'est un très bon film.
Objectivement,
il est réussi.
Subjectivement pour Axel, déjà.
La musique est.
Mais objectivement, c'est un des plus réussis du MCU.
Ouais, je suis pas fan de la
musique. Non, enfin, après, non, mais
je suis pas musical.
Il y a un univers qui a été apporté, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui a été imaginé et qui est original. Que
non, non c'est un comic.
Il est très beau.
Non, mais oui, mais je te parle en film.
Je vais vous dire.
Visuellement, il est très beau.
Je vais vous dire quel est le seul but de ce film. Comme la phase 2, c'est l'intégration des pierres de l'infinité.
Oui, oui mais c'est bien intégré.
C'est long. Oh, c'est long. Hein,
et puis, franchement, ça va. Hein.
Tu m'excuseras, Défendeur du 2, mais l'histoire du 2, elle est à chier. Je suis désolé. C'est le père de
Quill.
Elle est convenue. Je te rejoins.
Et puis même l'humour tous les personnages est trop présent et il est mal fait. C'est-à-dire que c'est moins.
Ouais, après, moi, je trouve que le 2 est réussi aussi. Hein,
moi, je trouve que le 2 est beaucoup plus réussi que le premier.
Alors peut-être pas plus. Bah,
mais je reviendrai là-dessus.
Moi, je trouve que comme Rocky, ces films marchent tous ensemble, mais pas séparément.
Ah ouais.
Oui, carrément. Moi, je trouve. Moi, j'ai beaucoup de mal à regarder un seul des films. Si je regarde pas les trois, je suis pas dans l'univers. Je trouve qu'il manque des infos. Enfin, voilà quoi. Il y a un univers qui se crée sur trois films parce que bon, c'est le même réalisateur, c'est les mêmes acteurs, c'est la même ambiance, c'est le même scénar quoi.
Oui, oui,
scénaristiquement, le début du premier enchaîne sur le deuxième et ainsi de suite.
Ils tiennent, ouais.
Donc en soi, c'est un méga film en trois parties quoi.
Et c'est surtout que c'est un film. Il arrive. Je sais pas d'où il pop si tu connais pas. Moi je connais pas les comics.
Je connaissais pas non plus.
Je vois un truc spatial, un peu rétro, tu vois, un peu années 70 avec le look, etc. De la très bonne musique et ça t'envoie dans son univers que tu connais pas. Moi qui ne suis pas lecteur des Marvel, j'ai adoré l'univers.
Et même la réalisation, elle est impeccable.
Ouais, la réalisation de la prison, très belle. En revanche, s'il y a une chose que je ne peux pas dire de James Gunn, c'est qu'en termes de réalisation, ce n'est pas la moitié d'un.
Ah, bah, ça, c'est sûr.
Ah oui, c'est peut-être celui qui réalise le mieux et qui arrive le mieux à sortir sa patte dans les films du MCU.
Bah, à part Joss Whedon,
on reviendra sur la phase 3.
Oui, mais de ce que j'ai vu du MCU, je n'ai pas tout vu du MCU.
On reviendra sur la phase 3.
Donc là, tu as cité tous les films de la phase
1 et 2.
Moi, j'aimerais bien revenir sur Captain America.
Lequel?
Le premier.
Le First Avengers.
Lui, il est réalisé par Joe Johnston, qui est de l'écurie Spielberg.
Ouais.
Donc, c'est la première fois qu'on sort vraiment du truc. Et on a un film qui est assez différent, je trouve.
Ouais.
Déjà, c'est un méga flashback.
Oui.
Qui est en soi, c'est un film d'époque, mais c'est un film d'époque réussi. Ça fonctionne sur les codes des films de commando, comme on a pu voir quand les aigles attaquent, tout ça. Mais de façon beaucoup plus... amené pour tout le monde, quoi.
Oui.
C'est pas que les gens qui aiment les films de guerre qui vont voir ce film.
Ah non,
tout le monde peut voir ce film. Il y a un côté très super-héroïque qui est assez proche de ce que pouvait être Wonder Woman. Pas forcément le film, mais cet univers qui se passe...
C'est Wonder Woman qui s'est rapproché du Captain America.
Voilà, mais je veux dire que pour l'inconscient collectif, on connaît peut-être plus Wonder Woman aujourd'hui que le Capitaine. Merci Linda Carter.
Merci beaucoup.
Moi, je dirais plutôt merci Gal Gadot, parce que Linda Carter, c'est vraiment les vieux. Même pour moi, c'est vieux.
Oui, mais il n'y a pas de série Captain America... officiellement.
Voilà, merci.
Avant le MCU pour le grand public.
C'est vrai.
Et pour moi, c'est aussi le remake caché d'un autre film de Joe Johnston qui s'appelle Rocketeer. Il y a la même énergie dedans.
Mais Rocketeer, ah putain, c'était pas bon ça.
Je dis pas que c'est bon ou mauvais, mais en soi, il y a la même énergie.
Oui.
Et il y a la même écriture pour le personnage principal.
Oui, mais il s'est amélioré vis-à-vis de la réalisation.
Entre temps, il a fait Jumanji, alors forcément.
Mais il s'est amélioré en termes de réalisation et d'écriture.
Oui.
Parce que Rocketeer, je suis bon public en principe. Hein. Mais alors là, même pour
Il s'inscrit dans un genre. À l'époque, tu avais des films comme Brenda Starr, comme des films comme ça, qui étaient des adaptations de pulp et pas de comics en soi. Oui. Et le pulp, c'est lourd.
Ah, c'est chiant.
C'est très lourd, c'est pas toujours très bien écrit. Il y a des petites incohérences, tout ça. Et je trouve que Joe Johnston est celui qui a mieux retranscrit ce truc-là.
C'est vrai.
Même si le film, tu le considères comme lourd, mais parce que c'est une bonne adaptation d'un pulp, parce qu'un pulp, c'est super lourd.
En fait, le problème, c'est pas que je le considère lourd. Mis à part Hulk, et Iron Man 2, je peux m'en passer, mais ça me dérange pas. Mis à part Hulk, qui est vraiment mauvais, la première phase, je la trouve extrêmement réussie. Elle touche. Peu importe les efforts de réalisation ou non, mais après, dans la réalisation et l'écriture, on reste sur du efficace qui doit être filmé, et il n'y a pas de réel parti pris dans la réalisation.
C'est là où j'interviens et que je dis Iron Man 1, c'était sympa.
Ouais.
C'était sympa, c'était la surprise et tout. Iron Man 3, j'ai trouvé que c'était une très bonne suite et le propos était sympa. Avengers 1, c'était cool.
Bah, Avengers,
pour le
Avengers
coup, c'était un kiff.
Ah oui, carrément.
Les Gardiens de la Galaxie, même si Kevin n'est pas d'accord, c'était un kiff. Tout le reste, c'est flingué.
Mais déjà, si vous dites,
Thor 1, c'était nul à chier.
Déjà, si vous dites c'est un
Captain America, c'était vraiment
très subjectif.
Déjà, si vous dites c'est un kiff, c'est extrêmement subjectif. Regardez, moi, je le dis, hein, le Thor 2, il est mauvais, mais je l'adore. C'est un kiff.
Le Avengers 1, c'est un kiff et c'est aussi un bon film.
Oui.
Attends, Avengers 1, c'est surtout un. Avengers 1, c'est surtout un mastodonte. C'est le premier qui réunit des films comme ça, qui, à part le logo MCU, n'ont rien à voir et qui réunit, qui lie un univers.
Oui, mais il est bien. J'ai dit que j'étais.
Mais le reste, c'est que ça.
Thor, le premier, c'était nul. Alors vraiment, il n'y a rien à sortir de ce film.
Mais tu rigoles, le fait que ça parte à l'envers.
Ouais, mais
que
ça parte à l'envers.
Natalie Portman.
Alors, en plus, si. Alors, c'est vrai. Du coup, il y a un truc à sortir du film. le Iron Man 2, bon, c'était.
Scarlett Johansson, c'est tout.
Ouais, et encore.
C'est le but, hein, c'est d'intégrer Scarlett.
Eh ben, j'ai trouvé très mal intégré.
Mais je trouve que là-dessus, on est d'accord.
Il n'y a rien de réussi dans ce film.
On est d'accord.
Le Ant-Man, le premier, je me suis. En vrai, Captain America, alors que j'aime bien le Captain America, le personnage, hein, et en plus, j'adore les acteurs, tous les acteurs du MCU, je les adore. Mais les films, ils sont.
Attends, c'est un ennui mortel. Si, alors, déjà, deux choses à dire. La première, c'est ni le 1 ni le 2, le meilleur Captain America.
C'est quoi, Civil War, le meilleur? Je peux pas entendre ça. Bah, ça me paraît être le plus réussi
des trois. Le guerrier du vert.
Écoutez, je parlais de Civil War, mais il en parlera la prochaine fois.
La deuxième chose,
c'est si on veut une bonne utilisation d'Ultron, c'est dans What If qu'on la trouve.
Oui, mais comme je l'ai dit, je reviendrai pas sur les séries. Et What If, tu t'imagines, c'est deux phases après qu'ils aient mis Ultron.
Oui.
Il faut attendre deux phases et une série, genre deux épisodes, pour que Ultron dise hey, « Eh les gars, c'est Ultron quand même
!» Ultron incarné par le merveilleux James Spader.
Ouais.
Très très grand acteur, en dehors du MCU.
Et What If, c'est magnifique.
C'est génial, les What If.
J'ai pas vu la deuxième saison, mais
elle est très bien.
Bref, je vous propose qu'on continue cette émission et qu'on la termine.
Allez, c'est parti.
Monsieur a une chronique.
Monsieur veut rentrer tôt. Non, je décale. Bon, je vais vous faire un petit retour en arrière.
En tout cas, chronique intéressante.
Mais oui, carrément. Je vais vous parler d'un truc qui est un peu une anomalie chez nous. Il y a eu un moment dans les années 80-90 où on a eu des séries live japonaises en France doublées. Ça n'avait aucun sens.
C'était trop bon.
C'était génial.
Moche.
T'es trop jeune pour comprendre.
Voilà, voilà.
Oui, je pense.
Je vais commencer facile par un truc qui va rappeler un truc à tous les nostalgiques, mais complètement. Si je mets ça.
Bernard Minou.
C'est Bioman.
Bioman.
C'est ringard.
Ah bah là,
là t'es dans les années 80 et le début des années 80.
Ouais, c'est très kitsch. Mais...
Et c'était génial dans les années 80.
Revenons donc au 2 septembre 1987.
Ah non, bah fin.
C'est à cette date que le fameux Club Dorothée, alors à ses balbutiements, rediffuse les épisodes de la série live japonaise Bioman par chez nous. Rediffuse ? Eh bien oui. Puisque la France a pu découvrir Bioman bien plus tôt, dès 1985 sur Canal+, avec un générique bien différent.
C'est Goldorak.
C'est le même concept.
Oui, oui.
Je me rappelle de ce truc.
Adaptation du générique original de Bioman.
C'était la même musique. Hein.
Je commence comme ça, puisque Bioman en France est emblématique de ces séries live japonaises bizarres avec des robots géants, des héros avec des armures colorées et des monstres titanesques et hideux. Caractéristiques qui définissent en réalité tout un genre, le Sentai, un sous-genre du Toketsu qui compte aussi les kaiju en son sein. Par exemple, bah, Godzilla, quoi. Dont Bioman en était la 8e itération à l'époque. C'était la 8e série de type Sentai au Japon. Son succès est immédiat et permet l'importation directe de plein de séries Sentai en France pendant la décennie suivante. Viendront donc Flashman, Maskman, Bioman 2 chez nous, va savoir pourquoi, Liveman ou Bioman 3, Turbo Ranger, Five Man, pour 5 épisodes seulement. Ouh là là. C'est l'homme 5, hein. Et Jetman. Viendront ensuite tout droit de l'imagination de Haim Saban et des États-Unis. Les Power Rangers.
Ah, ce générique, c'est un banger absolu. Quoi.
Deux en un, super pratique, où on combine des acteurs américains pour des dialogues et des cascades japonaises tirées d'un Sentai quelconque pour créer une nouvelle série chaque année adaptée au public occidental. Sur une idée originale de Stan Lee, d'ailleurs.
Oui.
Mais vous savez quoi ? Tout ça, on s'en fout. Si Bioman a pu si facilement marcher en France, c'est que ce n'était pas la première série live japonaise à être diffusée chez nous. Cet honneur revient aux séries La Légende des Chevaliers aux 108 étoiles ou Suikoden en VO. Ouais. Oui, ça a un rapport.
Ouais, ouais, ouais.
Et évidemment, la série très Star Wars et très 70s.
Extrêmement 70s.
C'est Colonne de Gang.
diffusé en 1977 pour la première sur TF1 et l'année suivante sur Antenne 2 pour la suivante. Oui, j'ai dit Antenne 2. Diffusé dans le cadre de l'émission Jeunesse Récré à 2, animée par...
Dorothée.
Voilà. Remplaçant au pied levé la série Spectreman qui atterrit en 81 sur TMC avant une diffusion l'année suivante dans l'émission d'Antenne 2. Allez, on arrive enfin à ce qui m'intéresse. Le 26 octobre 1983 arrive sur la deuxième chaîne un nouveau genre de héros. Un homme normal avec une armure de métal et chargé de défendre la Terre. Cette série du nom de Space Sheriff Gavan crée un nouveau genre au Japon. Il signe l'arrivée des Metal Heroes, un nouveau sous-genre du Toketsu. Selon Wikipédia, on peut définir le Metal Hero comme ça. Les protagonistes de la série des séries Metal Hero sont principalement des personnages spatiaux, militaires ou des policiers qui sont généralement soit des androïdes, des cyborgs ou des êtres humains qui portent des combinaisons blindées métalliques. Habituellement, le genre tourne autour d'un thème technologique où la technologie entre de bonnes mains peut être utilisée pour le bien commun.
Iron Man, c'est totalement le cas.
Quoi. Oui, sauf que Iron Man, c'est beaucoup plus vieux.
Le nom de cette première série est un clin d'œil à la France, d'ailleurs. Gavan, en anglais, est une transformation du japonais Gaiban, qui se dirait Gabin en français. Oui, notre héros est un hommage vivant à notre Jean Gabin national. Mais Space Sheriff Gavan, ça ne doit pas vous dire grand-chose. En France, IDDH, oui, j'ai dit IDDH, qui distribue la série et avait déjà importé par chez nous les aventures du capitaine Albator, décide de renommer la série en...
Son domaine, c'est notre galaxie. Il sort sur la terre, il est comme toi et moi. Il sort dans le ciel. C'est lui qui fait la loi.
Avec un générique français écrit par Paul Persavon, alias Antoine Decaune.
Il en a fait beaucoup. Il a fait
Cobra et ça, entre
autres. Il est génial. Hein.
Oui, mais en même temps, c'est facile quand on est le fils de la meuf qui gère l'unité jeunesse de Antenne 2. Xor devient vite le héros intrépide des petits Français, mais pas seulement. Puisque même Tarantino est fan de la série et a réuni deux de ses interprètes principaux, Sonny Chiba et Kenji Oba, dans son Kill Bill.
Ouais, c'était génial.
Ensuite, c'est simple. L'ensemble des séries Metal Hero seront diffusées chez nous jusqu'en 1990. Jusqu'à Winspector dans le Club Dorothée.
Ah, Winspector.
Viendront donc Sharivan, la suite de Xor, puis Shider sur M6, qui clôt la trilogie, mais aussi Jutspion, Spielvan, Metalder, Jiraya, Jiban... Et donc, Winspector dans le club d'eau, avec à chaque fois maximum une année d'écart avec la diffusion originale.
Oh là là.
Reste donc Super Rescue, Soul Brain, Special Rescue, Exit Draft, qui sont les suites de Winspector, et Tokutsu, Robo, John Person, Blue Swat, Juku, B-Fighter, B-Fighter Kabuto, B-Robo Kabutak et Tetsuwan Taitei Robotak. C'est absolument imprononçable.
On dirait des noms des épisodes de Kingdom Hearts.
Qui n'ont jamais été diffusés par chez nous. Et on comprend pourquoi. Enfin presque, puisque Haïm Saban utilisera les deux saisons de B-Fighter pour sa série Beetleborg, diffusée sur TF1 puis France 3, dans les années 90, et qui utilisera les images de Metalder, Spielman et même Capitaine Scheider pour son autre série VR Troopers.
On dirait des noms random, vraiment.
Ouais, mais c'est totalement ça.
Un peu. Et encore,
ils l'ont tiré au gacha.
Et encore, je vous cite la version française des noms parce qu'en général, c'est trois mots en japonais, comme Space Sheriff Gaivan ou Tokotsu Robot John Person. En France, si on avait traduit cette série, on l'aurait appelé John Person, quoi. Je terminerai en vous signalant tout de même que toutes les séries que je viens de vous citer, de Bioman à Robotak, et en passant aussi par Godzilla d'ailleurs, sont des créations d'une seule et même entreprise, la mythique Toei, qui n'a donc pas produit que Dragon Ball, les gars. Je ne résiste pas à vous laisser avec ce son, le générique du seul Sentai français à ce jour, le mythique France 5, créé entre autres par Alex Pilote, créateur de la défunte chaîne No Life.
No Life.
C'est
ah non, c'est le premier degré. Hein. C'était génial.
Non, c'est une blague. Non, moi j'accepte pas ce genre de choses.
On dirait le Rassemblement National.
Un peu, hein. Un peu.
Votez à droite.
Égalité, égalité, liberté. Jushi Sentai.
N'est-ce pas?
Les vraies valeurs de la France.
J'ai une centaine de questions.
Moi j'en ai une surtout.
C'est parti pour les questions.
Je peux commencer?
Bien sûr,
vas-y.
Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?
C'est génial en vrai.
Mais c'est dégueulasse.
Alors, c'est une religion au Japon, les Sentai. Il y a une série par an qui reprend toujours le même concept depuis les années 70.
Et là, c'est la version française. Française.
Enfin, c'est pas la version française.
C'est fait par des Français.
C'est cinq potes qui se sont dit, on adore ça, on va le faire nous aussi.
De Bourgogne en Aquitaine.
Enfin, bah, oui.
C'est un peu parodique, mais c'est justement le concept, c'est rigolo.
Okay. Qui a vu ça autour de la table?
Moi. Bah, moi.
Qui l'a pas vu?
Il y a 6 épisodes, je crois, un truc comme
ouais,
ça.
C'est pas ouf. Il y a 6 épisodes. C'est rigolo.
C'est
pas ouf.
C'est de, l'auto, non, c'est de l'autoproduction.
Ouais.
J'avoue que moi, la magie des Super Sentai marchait plus sur moi. Quand
ah bah, ça c'est sûr.
Oui, moi non plus, mais moi ça m'a justement beaucoup fait rire de revoir ça.
Ce qui m'amène à ma question, pour les Super Sentai, t'es pas un peu jeune pour toi? Parce que tu me dis toujours que je suis vieux, mais moi déjà je suis trop jeune pour ça.
Bah, disons que les Power Rangers, quand j'étais gamin, c'était plutôt 93,
et encore, hein.
Ça m'a fait me poser plein de questions en fait, parce que j'ai très vite grillé l'astuce du 2 en 1, et je suis allé voir c'était quoi en fait. Et j'ai commencé à regarder les épisodes en japonais des premières séries utilisées pour Power Rangers, qui ont des noms imprononçables. Vraiment. Et là, je commençais à me dire, mais elles sont toutes pareilles. Il y a toujours le côté rouge, jaune, vert, bleu qui se remonte, qui monte un robot géant. Enfin, j'ai compris que c'était un code en fait.
Ah oui, c'est un code.
Et que Bioman, qui était diffusé chez nous et que ma mère me parlait parce qu'à l'époque elle regardait le Club d'eau. Et je me dis, mais je fais le lien entre les deux. Je me dis que si on avait eu les Power Rangers plus tôt, Bioman aurait été intégré aux Power Rangers.
Complètement. Il y a grave des chances. Hein.
Complètement.
Puis il y avait totalement une dissociation entre les Sentai, les Super Sentai et tout.
Et on est une exception. On est une exception parce que les Américains n'ont jamais vu un truc pareil avant Power Rangers.
Ah ouais ?
Les Sentai, c'était diffusé chez nous. Ça, l'import se faisait Japon, France.
C'est rigolo, hein.
On est le plus gros pays consommateur de manga, mais en fait, globalement, de japonaiserie. Hein.
Ouais. Grâce à classe au Club Dorothée, en fait.
Ouais. Ah ouais.
Et pas que, parce que Recrea 2 a commencé avec Sanrukai, tout ça, Albator, Goldorak.
Bah, grâce à Dorothée,
c'est là où j'ai venu en venir. C'est... Bon, là, tu me parles de série live, carton pâte. On est d'accord.
Non.
Biomanet,
non.
C'est des animés.
Non, ah non, c'est non, live, ah, mais c'est live, pas carton pâte.
C'est pas carton pâte.
Power Rangers, pour moi, c'est carton pâte.
Il y a, ah, bah, y a du budget.
Il
hein.
y a un budget de fou furieux. Ah, et en plus, dans une série Power Rangers aux États-Unis, tu as le méchant de Mad Max 2. T'as Vernon Wells dedans. Dans Power Rangers Time Force. Mais ce que j'adore, en fait, c'est que tous les ans, c'est de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue de fond, mais c'est toujours le même système.
Mais ils ont même fait Spider-Man en Sentai.
Oui.
Spider-Man a un robot géant au Japon.
Gepardo. Ou Leopardo, je ne sais plus comment
ils ont fait les Tortues Ninja.
Oui,
aussi.
Mais un animé, ça.
Mais c'est un anime, Tortues Ninja.
Alors que là, tous les Sentai, ce n'était pas des animés.
Moi, vous trouvez que Power Rangers... Moi, je tombe des fois...
Vas-y.
Il y a quelques années, sur Gulli, qui mettait une série Power Rangers...
On va faire les boomers.
Mais c'était des putains de cartons colorés avec deux yeux de dragon robotique. Tu voyais limite le système derrière. Je veux bien, après, c'est le kitsch qui veut.
Bah, c'était pas Game of non plus. Mais
t'avais quel âge quand t'as découvert ça?
Bah oui, voilà. Parce qu'on parle de séries pour enfants.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Ah oui,
mais moi j'en avais 6.
Et moi, j'en avais 4.
Et moi, j'en avais 2. Oui, ah, je crois que c'était un concours.
Je parle au regard d'aujourd'hui, quand je dis que c'est du carton pâte.
Mais moi, je ne regarde plus les Power Rangers. Ah oui, non. Mais oui, c'est mon esprit d'enfant qui me fait revenir là-dessus en me disant, putain, c'est un monstre, ce truc. Ah ouais. C'est une franchise. C'est un truc
mais
de
oui, mais
fou.
Comme quand j'étais petit et qu'on m'avait mis les Goldorak, que j'ai adoré, et qu'en les revoyant, j'ai pris... je crois que je suis devenu aveugle.
Oui, mais c'est normal. T'es pas le public.
Et ça vieillit.
Et puis surtout que c'est vieux.
Mais c'est du Metal Hero. Et c'est peut-être même un prix.
Non, c'est pas du Metal Hero, c'est un animé.
Metal Hero, c'est vraiment pour les lives.
Oui. Ouais.
Okay. Non, mais et puis le Metal Hero, Goldorak, il a une combinaison, il est dans un robot. Mais le Metal Hero, le but, c'est que c'est lui le robot, en fin de compte, avec la.
C'est comme Iron Man, en vrai. Alors, en fait, c'était pas une blague. Hein.
C'est pas une blague, c'est Iron Man.
Si tu veux un rapprochement avec un animé, les Magica Girls, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'elles se transforment en héros.
Okay,
les Metal Heroes, c'est la même chose en live.
Mais Color Man, il fait super fort.
Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. Exactement. C'est les Chevaliers du Zodiac, si tu veux aussi.
Oui.
C'est un peu l'idée.
Mais
les Chevaliers du Zodiac, il n'y a eu que des animes. On ne parlera pas du reste.
Je pensais au concept. Les mecs, ils ont des armures et tout, ouais.
Et tout. Et du coup, comme tu es bien rencardé, est-ce qu'il y a dernièrement des films ou des séries Metal Heroes qui sont sortis?
Alors, mais les Metal Heroes se sont arrêtés en 99 au Japon. Les Sentai, eux, continuent tous les ans. Il y a une nouvelle série qui est transformée en Power Rangers par la suite.
Est-ce que les Power Rangers, c'est considéré comme des Metal Heroes?
Non, c'est considéré comme des Sentai.
Des Sentai. Ouais, okay.
Parce
Super Sentai.
Parce que, c'est pour ça que... Et Am Saban respecte bien ça, parce que quand il a pris des Metal Heroes, il a fait des séries à part. Il a fait VR Troopers, il a fait d'autres trucs avec les Metal Heroes. Parce que les codes ne sont pas les mêmes.
Il n'y a pas de robot géant, déjà.
Voilà.
Puisque c'est le héros qui par son armure, devient...
Ils avaient des armures, je me posais la question.
Donc Transformers, version japonaise, méga Transformers.
Mais Transformers, c'est japonais.
Ah oui, à la base, oui. Excusez-moi. Oui,
il y a une série américaine, et la continuité de la série américaine, les saisons 5, 6, 7 et je ne sais plus combien, là, c'est japonais derrière. Ils ont repris le truc complètement.
Je sais, il y a des méga Transformers collés.
Ouais, mais c'est pour ça que ça les faisait autant kiffer, Transformers. C'est une idée américaine de faire des jouets, etc. Mais quand ils ont vu ça, les Japonais, ils ont rapproché ça à mort avec ce qu'ils faisaient, eux.
Et puis les robots, les Japonais, ils sont à fond dessus.
Et oui, ça vend des jouets à bord.
Ah bah ça,
bah oui.
Mais pas que les Power Rangers, les Super Sentai au Japon, ça vend
des
jouets à bord.
Les robots, on n'a pas une grosse communauté qui aime le méca, qui aime le robot, qui aime le machin en France.
Oui.
Mais alors ceux qui sont dedans...
Bah, on pourrait parler.
Tu vois de qui je parle, Arnaud.
On pourrait clairement parler de Gundam, un de ces quatre, parce que Gundam, c'est complètement ça.
Ah, c'est une institution.
En France, on avait Bionicle. En 2010.
Ouais. Ah, c'est vrai.
Putain. Oh, taille pas, je les avais. Mais j'avoue que j'ai jamais vu les films. Enfin,
mais on n'a pas taillé. Hein. Tu ne te fous pas de notre gueule sur Power Rangers. On se fout pas de taille.
C'est ça. On a tous nos défauts. Mais d'ailleurs, en parlant de Power Rangers, lisez les comics. Ils sont énormes.
Putain, j'allais en parler justement. Vous les avez eu aussi, les comics? Ouais, c'était génial. Et c'était extrêmement beau en plus. Hein.
Puisque les séries sont encore en cours.
C'est encore en cours. Je l'avais quand j'étais gamin et ça m'a marqué tellement c'était incroyable comment c'était beau. Quoi.
C'est peut-être ringard, mais j'ai réussi à faire une chronique de 2 pages pour vous raconter que ça existait en France. Mais aujourd'hui, ce ne serait plus possible à la télévision française.
Non, mais parce qu'on revient sur l'émission que j'ai dit en début, ce que j'ai dit en début de mois, la mort de la créativité, on n'ose plus créer. Et que ce soit au cinéma, que ce soit en série, que ce soit en jeu.
Mais on a tellement chié sur l'animation et sur le Japon à l'époque du Club Dorothée. Ouais, que aujourd'hui, sur une chaîne grand public, ça s'est arrêté d'un coup. Antenne 2 ne diffusait plus rien au moment où le Club Do a sauté.
C'est triste.
Et même TF1.
Bah oui, mais TF1 aussi, mais c'est normal. C'est,
à part Pokémon,
c'était 80%
quoi.
De leur programme.
À,
oui,
à part Pokémon.
Mais c'est Pokémon qui a sauvé la Japanimation en France.
Avec Digimon.
Parce que, ouais, après, parce que TF1, je me souviens que le Club Dorothée, moi j'attendais fébrilement tous les mercredis pour regarder mon épisode des Chevaliers du Zodiac, de Dragon Ball, de Power Rangers. Et un mercredi, d'un coup d'un seul, je me retrouve avec du téléachat. Et, mais qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est grave.
C'est France 5 qui a récupéré aussi.
Et je demandais. Ouais,
c'est
et
non, c'est plus compliqué que ça.
Et à l'époque, mon père, qui nous gardait le matin, je lui dis: mais papa, il n'y a pas le Club Dorothée. Il ouvre le TF7 et il dit: non, c'est fini. Il n'y a plus le Club Dorothée, c'est fini. Et l'envers du décor, c'est ça, c'est qu'on a dû attendre 3 mois que Pokémon arrive.
Pour avoir à nouveau des...
C'était 3 mois. Non, c'était bien.
Bah, ils ont arrêté en juin d'une année de mon
97.
En juin 97 et Pokémon est arrivé la hype.
Je crois
Pokémon,
que c'était en août 97.
Elle est arrivée en septembre pour la rentrée scolaire.
Bah, je crois que ouais, mais le Club Do ça s'arrêtait en août 97, un truc
c'est
comme ça.
C'est ça. Et en fait, le ce qu'ils avaient fait, c'est que à l'époque, il y avait une grande diffusion de Pokémon assez agressive par les Micromania. Si tu achetais ton jeu Pokémon, tu avais la cassette du premier épisode.
Oui.
Et ce qui a fait que ça a sauvé l'animation parce que en fait, quand les mecs de TF1 ont dit mais tous les gamins s'arrachent ça, il y a un épisode, il faut qu'on ait les droits.
Bah c'est clair.
Ils l'ont mis dans TF1 fou, un truc
TF dans
fou,
ouais. TF jeunesse.
TF jeunesse où il y avait cette merde de Docteur Globule et d'autres trucs et en fait tu regardais TF fou juste pour un truc.
Juste pour Pokémon.
Ouais mais voilà c'est la deuxième génération de l'animation japonaise en France.
C'est exactement ça.
Et mais qui était à l'opposé de la première.
Ah, oui oui c'est un.
Ah ben oui parce que on a l'envers du décor c'est qu'on a appris que Ségolène Royal ne voulait pas que ses enfants regarde ça, donc elle a dit c'est trop violent. Effectivement, les boules de feu dans la gueule, c'est autre chose que vas-y, Pikachu, attaque éclair. Mais c'est trop violent, c'est trop machin, donc il fallait arrêter. Mais putain,
c'est quand même rigolo qu'on ait censuré des mecs qui font des arts martiaux.
Ouais.
Pour aller voir un gamin qui, à 10 ans, il va faire le tour du monde pour faire latter des chiens entre eux, tu vois.
Et sa mère est tout à fait d'accord avec le concept.
Et il parle avec tous les inconnus qui rentrent, leur racketter leur argent et tout.
Non, mais ça, c'est le jeu.
Oui, mais c'est quand même le concept, quoi.
Il me semble que dans Pokémon, le dessin animé, il est toujours sur la paille, Sacha. Hein.
On le voit jamais, mais je pense qu'il rackette tout le monde.
Ouais, non,
mais on le voit
obligé,
pas, c'est tout.
Obligé,
mais
c'est
sinon, il serait mort au bout de 2 minutes. Déjà, le premier Fatal Foudre, c'est terminé, tu vois.
Oui, mais attends, non. Pourquoi il est rincé? Il n'a pas d'argent. Le mec, Ondine, elle le suit pour une seule et bonne raison, se faire rembourser son vélo. Elle ne l'a jamais eu. Donc
vélo.
Le mec, il est fauché jusqu'au dernier épisode.
Bref.
Le mec, il doit 500 balles, mais à chaque fois, il achète des trucs qui ont
bref.
Rien à voir.
Pour terminer sur les Metal Heroes, c'est une époque de la télévision française où tout le monde s'arrachait ça. Ouais. Parce que mine de rien, il n'y a pas que le Club Do qu'on diffusait. M6 l'en a pris aussi.
C'est vrai.
M6 en a pris, Antenne 2 en avait. Il n'y a pas une chaîne qu'on n'avait pas. Au moment où les Power Rangers sont explosés, tout s'est arrêté d'un coup.
Et d'ailleurs, T'es Fou avait sa propre, avait les Beetleborgs.
Oui, qui est donc, de Am Saban.
Voilà, exactement. Celle de M6, il me semble que c'était un flic avec une voiture qui se transformait. C'était assez cool.
Il y en a eu plus un.
Il y en a eu tellement, c'est dur. Mais oui, pour dire, les Super Sentai, c'est même un truc qui a survécu au Club Dorothée, puisque effectivement, avec Beetleborg, T'es Fou avait son Super Sentai.
Oui, et continuait de diffuser les Power Rangers.
C'est vrai, mais moi j'avais déjà lâché depuis un petit moment.
Ouais, mais voilà, mais les Power Rangers, ça continue encore aujourd'hui. Parce que les Super Sentai continuent encore au Japon.
C'est vrai qu'il y a encore une série Power Rangers.
Mais il y en a plein, ça a été racheté par Hasbro, il y en a de partout.
Oh, ouais. Je sais pas combien
Disney a eu les droits dans 10 ans.
Non, mais Disney, attendez, de toute façon, on en reparlera pour ma prochaine chronique ciné, mais Disney, de toute façon, ils rachètent tout et
ils
tout le monde.
Ils ont tout, ouais, ils ont tout.
Même les trucs nuls.
Bah, ils l'ont eu pas dans 10 ans, ils les ont rachetés.
Ouais, mais ça rapporte.
Je ferai une chronique en fin d'année sur les Power Rangers, au grand désespoir d'Axel.
Rappelle-moi de pas être là.
qui vous expliquera que Haim Saban a conçu un truc qui s'est fait racheter 10 ans plus tard par Disney, qu'il a racheté lui-même 10 ans plus tard et qu'il vient de vendre à Hasbro il y a 5-6 ans.
Le mec
s'est fait des couilles en
platinium. Par contre, le mec, il a suggéré ça. Il a suggéré quoi.
Ah ouais, il a été impeccable.
Sachant qu'à la base, c'est lui qui enregistrait les disques de dessins animés.
Ouais,
le générique de Goldorak, c'est lui qui est aux manettes.
Ouais. Et c'est ça qui l'a fait exploser le
bah oui.
Ça s'est vendu de ouf. Hein. Ça sera l'occasion pour moi de parler du master banger de de Power Rangers sur Mega Drive, qui était incroyable.
Ou le nouveau, ou le nouveau jeu Power Rangers, qui est un jeu de combat.
Ou le nouveau jeu Goldorak.
Et c'est aussi une époque de générique, comme vous avez pu l'entendre dans cette émission, où les chanteurs osaient chanter des génériques de dessins animés, en tout cas de programmes jeunesse. Et c'est ça fait partie des programmes qui ont été le moins touchés par la censure. Les Sentai et les Metal Hero.
Oui, parce qu'on revient sur ce qu'on disait aussi sur ta news de Nicky Larson au début du mois. Nicky Larson, le doublage a été totalement censuré et refait.
Oui.
C'est de là qu'on a les aberrations.
Non, ne me tire pas la boulette.
La petite bullette. Oulala, je suis méchant. Oh oui, je suis méchant. Enfin, c'était,
et quel le survivant
et quel le survivant, ouais.
Il y avait des épisodes, c'était 12 minutes. Ça.
Non, 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 Claudia, non. Elle est tombée de la balustrade, qu'on m'appelle l'architecte.
Voilà, exactement, c'était Julia est tombée de la balustrade, qu'on m'appelle l'architecte. Et je vais t'attaquer avec ma technique au couteau de cuisine, au couteau de boucher.
Et le nougat est dur, juste à monter l'humeur.
C'est vrai, je l'avais oublié celle-là.
Les temps sont durs comme les œufs, ouais. Bref, c'est là-dessus qu'on se quitte. On se retrouve le mois prochain. Portez-vous bien. La semaine prochaine, c'est une compile. Salut tout le monde.
Des bisous.
Salut les gars.
Salut. Bisous.
Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud et les meilleurs moments en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine.